À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'un Américain, un laïc, Joseph Dutton, qui a accompagné le père Damien, vous savez, le fameux père Damien, qui est allé à Molokai, dans le Pacifique, s'occuper toute sa vie des lépreux, d'une façon si héroïque qu'il est toujours fameux, le père Damien, et le père Dutton aussi est fameux. Il est reconnu comme étant quelqu'un d'absolument fantastique. Alors, le père Dutton est mort en 1931, à un âge très avancé. C'est pas le père Dutton, pardon. Monsieur Dutton est mort en 1931. Et son souvenir est toujours gardé, en particulier à Stowe, où il est né. Stowe, c'est tout près de Montréal, dans un sens, hein? C'est juste de l'autre côté de la frontière. Et dans l'église de Stowe, il y a des tas de souvenirs à son sujet, puisqu'il est toujours resté attaché à sa ville natale. C'est une famille, les Dutton, qui vient d'Angleterre. Ils sont venus il y a longtemps, au 17e siècle. Ils se sont établis sur les terres que nous appelons maintenant le Vermont, justement, au Esto, où il est né, et le Connecticut aussi. Son père s'appelait Ezra, E-Z-R-A, nom curieux, n'est-ce pas? Et lui-même a été baptisé Ira, I-R-A. Son père était fermier, était aussi cordonnier. Sa mère, Abigail Barnes, était institutrice. Alors, leur fils, Ira, est né à Stowe le 27 avril 1843. C'est pas d'aujourd'hui, mais il est mort, très âgé. Et la famille de Ira a vécu donc à Stowe simplement 4 ans, jusqu'en 1847, alors que Ira avait justement 4 ans. Et la famille est déménagée dans le Wisconsin. Vous savez sans doute où est le Wisconsin, c'est au nord de Chicago, n'est-ce pas, à l'ouest de l'État et du lac du Michigan. Hein? Mais Ira a toujours gardé, comme je vous ai dit, un sentiment spécial pour Stowe. Ira Dutton commence à travailler à l'âge de 9 ans. Très jeune, il n'aimait pas l'école de toute façon. Il s'est mis à travailler quand même dans une librairie, puis il est devenu très tôt un bon relieur de livres, évidemment. Et puis, il apprend l'imprimerie. En parlant de sa jeunesse, il va dire plus tard, « J'ai grandi presque entièrement parmi des adultes. » Quand on commence à travailler si tôt, on travaille avec des adultes, évidemment, et le jeune Dutton reçoit aussi beaucoup de sa mère, qui est institutrice, il reçoit sa première éducation. Donc, il fréquente pas l'école jusqu'à ce qu'il entre à la Old Academy à l'âge de 12 ans. Apparemment avec beaucoup de résistance, d'ailleurs. Puis, en dépit de son opposition aux études, parce que, comme je vous ai dit, il aime pas l'école, le jeune Dutton suit des cours à l'Académie Milton, puis au collège Milton. Et finalement, bien, ce jeune homme est mêlé à la guerre civile américaine, mais sans vraiment se battre. Il entre ensuite au service du gouvernement 2 ans après la fin de la guerre civile. Et une guerre civile aux États-Unis, tout le monde est au courant, hein? Et il sert comme agent général dans la construction d'un cimetière. Pour un jeune homme, c'est curieux, hein? Agent du général dans la construction d'un cimetière, ce travail... Ça implique l'exhumation des corps qui ont été dispersés dans des fosses non identifiées durant la guerre civile, puis c'est l'inhumation dans des nouveaux cimetières nationaux. Hein. Et Dutton se marie finalement à 23 ans en 1866. Mais on connaît peu de choses de son épouse ou de leur mariage, excepté qu'apparemment, ils n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble. C'est pas d'aujourd'hui que les mariages ne durent pas. Faut dire qu'il est né, il n'était pas catholique, il est né épiscopalien, de tendance plutôt protestante. Et la femme de Dutton était plutôt extravagante, elle lui faisait des dettes. Il la quitte d'ailleurs assez rapidement. Ils se sont mariés en 1866, il la quitte l'année suivante. Le divorce n'a lieu que plusieurs années plus tard. Et commence alors la période de sa vie que Dutton rapporte comme étant une décade de décadence. Donc, on peut dire que de l'âge à peu près de 24 ans jusqu'à 34 ans, là, 10 ans de décadence. Il dit, pendant que j'enterrais les morts, ce que j'avais acquis dans la vie s'en allait à la dérive, et alors, me suis laissé aller moi-même. Et il ajoute que les valeurs morales qui étaient miennes jusqu'alors, eh bien, je n'y adhérais plus fidèlement. Et je suis même devenu alcoolique. Et dans les moments les plus sombres de cette habitude de la boisson, ajoute-t-il, et de la débauche, j'ai toujours rempli quand même mes devoirs. Il était responsable par rapport à son travail. J'avais été un buveur modéré avant et pendant la guerre civile, mais c'est dans la décade de décadence, comme il l'appelle, que, ou les 10 ans de décadence, si vous voulez, que l'absorption, surtout du whisky, fut prise, et cela jusqu'en juillet 1876, vous voyez, ça fait 10 ans. Il ajoute, depuis ce temps, j'ai été strictement abstinent. En 1868, un ami demande à Dutton de se joindre à lui dans ses affaires. Dutton accepte, mais il ne sait pas que le commerce, c'était une distillerie. Et après 2 ans de travail à la distillerie, Dutton va à Memphis et il y demeure 14 ans jusqu'à l'automne de 1884. Il passe 6 de ses années à travailler au département de transport des marchandises, une compagnie de chemin de fer. La compagnie de chemin de fer de Louisville et Nashville. Puis, les 8 autres années, il les passe au département américain de la guerre, comme agent spécial. Et durant ce temps, en juillet 1876, toujours, Dutton décide qu'il a bu son quota de whisky, et il promet là, c'est là qu'il promet de ne plus boire. C'est fini pour toujours. Il est même déterminé d'expier pour cette décade de décadence. Il écrit plus tard qu'en 1881-82, il dit « Je commençais à ce moment-là à me préparer pour entrer dans les saints ordres anglicans, épiscopaliens, comme on dit aux États-Unis. » Il ajoute « Comme épiscopalien, ça ressemble beaucoup à l'Église catholique. Hein, je vous spécifie au cas où il y en aurait qui ne sauraient pas tout à fait ce que c'est. » La cathédrale anglicane à Montréal est située entre Eaton et la baie, rue Sainte-Catherine. Ils ont plusieurs églises dans le centre-ville. Ils en ont un peu partout au Québec. Ils en ont une très ancienne à Québec. Ce sont des catholiques, en fait, qui se sont séparés de la grande église catholique sous l'influence de Henri VIII en particulier, vers 1534. Et sous l'influence aussi de la reine Élisabeth Ière. Ce fut tragique, terrible, difficile, et on a rêvé d'une réunion entre leur Église et la nôtre, catholique, romaine, mais ça ne s'est pas malheureusement fait. Il dit que durant ce temps, donc, en juillet 76, Dutton décide qu'il a bu son quota de whisky. Il a pensé à entrer dans les saints ordres, et comme épiscopalien, quelques points historiques me firent prendre une année pour étudier les exigences de l'Église catholique. Et à ce moment-là, Dutton, finalement, après avoir étudié toute l'histoire de ce schisme, de cette séparation, il décide d'embrasser la foi catholique, qui le rendra plus apte, c'est ce qu'il croit, à assumer une vie de pénitence pour se réformer. Et en conséquence, le 27 avril 1883, pour son 40e anniversaire de naissance, Ira Dutton est reçu dans l'Église catholique de Saint-Pierre, justement Saint-Pierre, le nom du premier pape selon notre conception de la succession apostolique pour nous, catholiques. C'est à Memphis qu'il se fait baptiser. Sous condition, parce que le baptême épiscopalien est tout à fait valable, l'Église catholique le reconnaît, les Anglicans, on reconnaît leur baptême, mais c'est sous condition. À ce moment-là, il prend le nom de Joseph, il change de nom. Il écrit d'ailleurs à ce sujet, au sujet de Joseph, il dit « J'ai toujours eu un respect spécial pour le nom de Saint-Joseph. Mon nom, Ira, I-R-A, là, n'est pas un nom chrétien, bien qu'il apparaisse dans l'Ancien Testament. » Aussi, j'ai demandé et j'ai reçu le baptême sous condition à l'honneur de Saint-Joseph, parce que plusieurs années de dévotion à Saint-Joseph m'ont conduit directement dans les bras de l'Église catholique. Il ajoute, mon service pour le gouvernement américain a pris fin à l'approche de l'année 1883 et j'ai dû continuer à utiliser mon nom de Ira Barnes Dutton dans mon travail officiel. Mais à l'approche de l'année 1883, j'étais disposé à être une personne nouvelle, c'est-à-dire Joseph Dutton, un serviteur de notre Seigneur. Aussi, avec respect, j'ai mis de côté le Ira Barnes. Et j'étais Joseph, faisant le saut dans une vie nouvelle. Alors, il promet de consacrer le reste de sa vie à cela. C'est extraordinaire les changements qui vont s'opérer. Il va devenir vraiment un grand saint dans un sens. Oui, Dutton, après son entrée dans l'Église catholique, assez rapidement, il fait son entrée au monastère trappiste de Gethsemane, ou Gethsemane, que vous connaissez sans doute dans l'État du Kentucky, parce que c'était illustré en particulier par Thomas Merton, dont je vous ai parlé, et j'ai parlé alors de ce monastère immense de Gethsemane, ou Gethsemane. La vie au monastère de Gethsemane, des trappistes, comprend le silence complet. À cette époque, c'était vraiment complet. Et beaucoup de travail ardu, très exigeant. Ils étaient très stricts, les trappistes, à ce moment-là. Dutton est cantonné dans une cellule de 6 pieds carrés. C'est pas grand, hein? Il y a là une planche d'environ 3 pieds de large. Et c'est curieux, et cela va devenir une habitude pour la vie, parce qu'à l'âge même de 87 ans, il utilise encore une planche couverte d'un drap pour son lit. Dutton demeure à Gethsemane durant 20 mois seulement. Même pas 2 ans. Il prononce pas de vœux, donc. Il sort juste avant d'émettre ses vœux temporaires. Il cherche un travail plus humanitaire et il écrit, je pense, peut-être que je serais resté au monastère et j'aurais offert ma vie à cet ordre des trappistes en particulier si une vue plus large pour de futures activités plus utiles m'aurait été offerte. Je voulais servir pour une cause utile pour le reste de ma vie, sans aucun espoir de récompense monétaire ou autre. Ce désir a grandi en moi avec une telle force qu'il est difficile de l'expliquer. L'idée d'une vie de pénitence est devenue presque une obsession et j'étais déterminé à l'amener à bonne fin. Thomas Merton, qui a passé presque toute sa vie comme moine à Gethsemane, écrit de Dutton, il en a parlé et dit, Dutton a quitté Gethsemane pour une très sérieuse raison. Les moines qui étaient habitués d'écrire des remarques dans le cahier des entrées et des départs, il y en a qui sont chargés à faire ça, ont rarement eu de l'admiration pour ceux qui quittaient. Il y a une seule exception, Joseph Dutton. Il est allé rejoindre l'héroïque père Damien dans sa léproserie de Molokai dans le Pacifique. Et ce fut une vie des plus dures, des plus terribles. Pire qu'à Gethsemane, même sous l'autorité de Don Benedict Berger. En quittant Gethsemane, Dutton refuse de reprendre les 70 dollars, c'était assez énorme, ça, 70 dollars dans le temps, qu'il a déposé au bureau du prieur. Il a d'ailleurs des bons du Trésor des États-Unis, il les encaisse de temps en temps quand il a besoin d'argent. Et de Gethsemane, bien, Joseph Dutton se rend à Saint-Louis, dans le but de connaître le travail qui se fait là par les différents ordres religieux. Il veut devenir religieux actif et là, il fait la connaissance du provincial des rédempteuristes qui invite Dutton à l'accompagner à la Nouvelle-Orléans pour participer à une conférence. Et Dutton accepte l'invitation. Il est logé chez les rédempteuristes et c'est là que pour la première fois, il apprend quelque chose au sujet du père Damien. Il feuillette une publication catholique, probablement la revue Ave Maria, et c'est apparemment un article qui donne l'idée à Dutton de s'embarquer pour Hawaï pour aller rejoindre le père Damien. Et avec l'aide d'un prêtre, le père Hudson, eh bien, Joseph Dutton fait des arrangements pour aller à San Francisco. Puis là, il voyage avec un ticket d'immigrant. Il se nourrit sobrement parce qu'il veut que son voyage ressemble à un pèlerinage. Puis à San Francisco, il embarque sur le navire Eureka. Eureka, ça veut dire « j'ai trouvé », hein, en grec. Et il fait route vers les îles Hawaï. Il arrive à Honolulu le 22 juillet 86 à 43 ans et sa vie va chavirer. Elle va être transformée complètement car Dutton ne perd pas de temps. Il passe directement à la cathédrale Notre-Dame de Paix sur la rue Dufort où il parle à plusieurs pères qui ensuite le réfèrent à l'évêque Herman Kirkman. Et Dutton se présente lui-même à l'évêque, puis il explique la raison de sa venue à Hawaï. Il va ensuite voir Walter Murray Gibson, ministre de l'Intérieur et président du Bureau de santé, à qui il explique son désir de passer le reste de sa vie à Molokai avec les lépreux. Et après avoir entendu un bref aperçu de la vie de Dutton, ce monsieur Gibson est convaincu qu'il est à la fois physiquement et mentalement fait pour vivre à la léproserie. Il lui accorde la permission d'aller là. Et lorsque monsieur Gibson aborde la question du salaire, eh bien Dutton lui dit qu'il est absolument décidé de ne rien accepter pour ses services s'il veut pas un sou. Gibson lui dit qu'en tout temps, s'il change d'idée, il n'aura qu'à lui faire signe, mais Dutton va demeurer ferme dans sa résolution. Il sera bénévole pour toujours. Donc, le 29 juillet 1886, seulement une semaine après son arrivée à Honolulu, cet homme de 43 ans, Joseph Dutton, met pied sur la péninsule de Kalaupapa, dans l'île de Molokai. C'est là que se trouvent environ 700 personnes affligées de la lèpre. Ça va monter jusqu'à 1200 à peu près. Le père Damien l'attend avec son cheval et sa voiture, et ensemble, ils se rendent à la mission de Kalawao. Kalawao, c'est là, à 2 000 et demi de là. Hein? C'est là qu'il va vivre, sans jamais en sortir. Aussitôt, le père Damien appelle Joseph Dutton frère. Il lui donne le titre de frère, mais c'est un laïc. Dutton va écrire d'ailleurs plus tard, « Le père Damien m'a accepté instantanément, comme j'étais. Mais je ne suis pas et je n'ai jamais été un frère dans le sens utilisé dans les ordres religieux. Je suis simplement un laïc ordinaire. » Plusieurs appellations ont été ajoutées par de bons amis dans la correspondance comme « Père Dutton »,« Frère Dutton »,« Vénérable Frère Dutton », etc. Mais je signe tout simplement, moi, Joseph Dutton. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 43 ans, Joseph Dutton commence une nouvelle vie qui va durer, écoutez bien, 45 autres années. 45 ans de don total de lui-même aux lépreux. Lorsque Joseph Dutton arrive à la léproserie de Kalawao, il y a 20 ans que les premiers patients ont été transportés à Molokai. C'était le 6 janvier 1866. Cette déportation, décidée par le ministère de la Santé, était une tentative désespérée pour arrêter l'expansion de la lèpre, qui était arrivée dans les îles par les navigateurs étrangers à la fin du 18e siècle. Dès 1830, d'ailleurs, les victimes qui avaient été atteintes de la lèpre ont manifesté des signes apparents, et puis la lèpre est apparue alors comme la pire des maladies, un peu comme le sida aujourd'hui, et ça avait atteint les habitants des îles. Cette ségrégation a isolé à Molokai les victimes, les lépreux. Comme on faisait dans les siècles passés, si on se rappelle, n'est-ce pas, les récits de la Bible, même du Nouveau Testament. Hein? Les lépreux étaient isolés de la communauté, séparés de leur famille et de leurs amis. C'est ainsi que la vie à Kalawao, dans cette prison naturelle, où c'est très beau, les montagnes, le paysage, mais c'était pire que la mort. Hein? On y entendait des cris comme ça, parce que ces gens-là n'avaient pas de formation religieuse au début. Ici, il n'y a pas de loi, puisqu'on criait. Et ce lieu de déportation, appelé l'enfer de Molokai, en était venu à être considéré comme une place où les faibles étaient à la merci des forts. Et souvent ce qui arrive dans nos sociétés de plus en plus, hein, les faibles, je vous en ai parlé hier, les enfants à naître, sont à la merci des forts. Nos jeunes sont à la merci des forts. Les femmes sont à la merci des forts. Les peuples petits sont à la merci des plus forts. Et ainsi de suite. Où est le respect? Ceux qui commettaient des crimes à Molokai n'avaient aucune crainte d'être punis, d'ailleurs. Comment ça, quelques punitions? Vous pouvez chercher. Qu'est-ce qui pouvait être pire que le destin auquel ces gens faisaient face? Évidemment, la nourriture et les abris existaient, mais c'était inadéquat. Et pendant plusieurs années, on ne pouvait trouver de médecins qui osent résider là. Les médecins avaient plutôt peur. C'est comme cela que dans les îles Hawaï, appelées autrefois hein, les îles Sandwich, en l'honneur de, me semble, Lord Sandwich. C'est lui qui a inventé les sandwichs. Eh bien, ça s'appelait comme ça. Les familles préféraient cacher leurs victimes de la lèpre plutôt que de les envoyer dans cette tombe vivante. Et c'était comme ça quand le père Damien est arrivé en 1873. Il a été le premier prêtre à demeurer à Kalawao et le premier blanc en qui les lépreux ont mis leur confiance. Voilà le changement. Mettre sa confiance en quelqu'un et se changer. Hein. D'ailleurs, le père Damien leur a montré qu'il n'avait pas peur d'eux, ni de leur maladie, il les a traités comme des amis, et depuis, il leur a donné ce que personne avant lui n'avait été capable de leur donner, c'est l'espérance. L'espérance que les choses pourront être meilleures, sinon dans cette vie, du moins dans l'autre. Évidemment qu'on nous attaque, nous chrétiens, d'espérer que ce soit meilleur dans l'autre. Mais nous avons cette espérance, et nous le savons que dans l'autre vie, ce sera meilleur. Et ce sera toujours meilleur ici-bas si nous approfondissons notre vie spirituelle, notre union à Dieu. Durant les 16 années où le père Damien est à Kalawao, d'autres religieux des Sacré-Cœur, car c'était un religieux du Sacré-Cœur, viennent travailler avec lui de temps en temps. Damien est tenace et volontaire quand le bien-être de ses patients est concerné. Et alors, il y a des conflits qui les opposent et les autres le laissent seul plus souvent qu'autrement. Puis de toute façon, ils n'ont pas le charisme. En 1885, Damien, qui souffre déjà de maux de jambes, voit le médecin qui diagnostique officiellement la lèpre. Imaginez. Maintenant, plus que jamais, le père Damien a besoin d'un assistant pour l'aider à poursuivre son œuvre et Dieu y pourvoit. Parce qu'il s'inquiète après son départ. Et alors, la rencontre de Joseph Dutton, en ce 29 juillet 1886, c'est une date historique pour les lépreux. C'est évidemment que cette rencontre en est une de bienvenue. Le père Damien est très heureux. Oui, le père Damien et Joseph Dutton ont indubitablement leurs différences, mais Dutton est l'ami le plus proche du père Damien. Le père Damien, le 23 novembre 1886, écrit au père Hudson à l'Université Notre Dame en Indiana. Le courage de mon cher frère Joseph Dutton semble bien en rapport avec la vocation spéciale que notre Seigneur lui a donnée. Vous devriez voir, il prend grand intérêt à tout ce qui concerne les autels et les sacristies de mes deux églises. Je suis sur la liste des impurs moi-même, hein, il a attrapé la lèpre. Mais lui, il s'efforce de tenir très propre la maison de Dieu et la maison du prêtre. Et en outre, j'ai en lui un bon pharmacien et un bon confrère. Alors Joseph Dutton s'est mis à la tâche sans hésiter. De son côté, le père Damien, qui sait bien qu'il ne vivra pas longtemps, commence plusieurs nouveaux projets, puis il arrive souvent que Joseph Dutton le termine à sa place. Le père Damien lui dit, « Oh, frère Joseph, je pars, et vous, vous allez finir cela. » Il ajoutait en riant, « Oui, moi, je suis le charpentier, et vous, frère Dutton, vous êtes le menuisier. » Alors Joseph Dutton aide le médecin qui réside à Kalawao, le docteur Arthur Mouritz, qui dit de lui, « Frère Dutton montre bien que la lèpre n'a pas le pouvoir d'infiltrer la peur dans son esprit. Il n'a pas peur. » Pendant plusieurs mois après son arrivée, sa routine quotidienne, du déjeuner jusqu'à la nuit, jusqu'à l'obscurité, c'est de nettoyer et de panser les plaies, les ulcères et les autres problèmes de la peau. Il enlève les os cariés ou atteints de la gangrène, toutes les blessures que la lèpre inflige à l'homme. Moi, j'ai vu de près des lépreux au Cameroun. C'est terrible, terrible. Il est méthodique, dit le docteur Mouritz, est précis dans son travail et rapide pour apprendre les rudiments de la médecine et de la chirurgie. Je l'ai initié pour faire des bandages des plaies des lépreux protégés du père Damien. Je lui ai montré la méthode pour fixer comme il faut les bandages et autres accessoires. Et en très peu de temps, Joseph Dutton est devenu si apte qu'il dépasse son professeur. Et brièvement, quel que soit ce qu'entreprend le frère Dutton, il le fait bien. Il semble toujours trouver le temps de s'occuper de nombreux travaux qui lui sont confiés. Plus il a de travail, plus il semble aimer cela. Et le docteur Moritz ajoute, il a un caractère divin. Rien ne semble contrarié. Aucun langage vulgaire ou colérique n'est jamais sorti de sa bouche. Même si ses habits sont bon marché et rudes, il est toujours digne puis il inspire le respect. Il ne cesse jamais d'être simple et propre. Et il pense toujours que c'est sa protection contre la lèpre. Oh, j'énumère quelques différents travaux qu'il exécute chaque jour. Il est compagnon du père Damien, dit le docteur Moretti. Il est secrétaire, serviteur, infirmier. Il fait d'autres travaux domestiques. Il est fossoyeur aussi. Il est sacristain, bedeau, pourvoyeur pour les maisons du père Damien et de son entretien ménager. Il est économe de l'hôpital, celui qui panse les plaies. Il est commis à la clinique et plus tard directeur du Baldwin Home pour les garçons orphelins. Il en sera question tout à l'heure. Il est ingénieur sanitaire, architecte, jardinier, paysagiste. Ah, c'est fantastique. Le site du Baldwin Home était autrefois un vilain amas de pierres. Mes frères Dutton est aussi maître de poste. Il a tout arrangé. C'est extraordinaire. Pendant plusieurs années, la principale occupation du frère Dutton est de panser les plaies. Apparemment, un travail sans fin. Si vous voyez la photo de Joseph Dutton, ce regard, ses cheveux blancs, cette barbe blanche, un saint, le bonheur, la joie. C'est fantastique. En 1889, il est arrivé 3 ans plus tôt, lors d'une visite que Robert Louis Stevenson fait sur l'île. Qui est Robert Louis Stevenson? Vous avez tout ça, vous avez lu ça, L'île au trésor. Il a publié ça en 1883, puis vous avez surtout certainement rencontré le Dr. Jekyll and Mr. Hyde, qu'il a publié en 1886. Donc, il vient là, lui, en 89, Stevenson. Il observe Joseph Dutton au travail. Et il écrit, « J'étais présent pendant que le frère laïque, M. Dutton, pansait les plaies des garçons dont il avait la charge. Il me les présenta, comme ça, comme il venait, avec un bon mot au sujet de chacun. Et ses plaisanteries faisait sourire ces pauvres garçons. Le travail le plus important du frère Dutton était centré autour du Baldwin Home pour les garçons. Au début, ces garçons logeaient dans des petites huttes qui entouraient celles du père Damien, mais en quelques années, leur nombre s'est accru et 2 larges bâtisses ont été bâties. En 1888, arrivent mère Marianne et 3 sœurs franciscaines qui sont venus à la colonie, puis leur arrivée comble un autre des rêves du pauvre père Damien. Elle dirige le Bishop Home pour les filles, qui est de l'autre côté de la péninsule. La mort du père Damien survient le 15 avril 1889. Ça crée un grand émoi à travers le monde entier. Et le frère Dutton lui-même, puisqu'il était appelé comme ça par le père Damien, répond aux nombreuses requêtes pour sorte de renseignements au sujet du père Damien. Et Joseph Dutton sent qu'aucun des successeurs du père Damien ne peut lui aller à la cheville et que tous ceux qui l'ont suivi sont simplement des imitateurs. D'ailleurs, Joseph Dutton le dit bien. Il dit « Quelques amis personnels parlent de nous comme des imitateurs, ce que nous sommes vraiment. » Mais le monde en général, en pensant ou en parlant de cette colonie de lépreux ou des lépreux n'importe où, ont d'abord le père Damien en vue. Et sa mort, si tragique et humble, l'a élevé bien haut dans l'affection du monde. Nous ne sommes pas capables, nous, de mesurer le bien qui a été fait. Mais sûrement il est grand et agréable à Dieu. Nous devrions nous réjouir d'avoir la chance d'aider en soutenant le travail. Oui, le travail devrait nous occuper à plein temps. Ainsi, nous allons travailler à perpétuer le travail du père Damien, à la lumière de laquelle il devrait considérer. Joseph Dutton pense que l'intérêt pour la colonie va diminuer quelque temps après la mort du père Damien, mais non, ça n'est pas arrivé. C'est en grande partie au travail abondant du frère Dutton dans la correspondance, où l'arrivée de 4 frères des Sacré-Cœurs a libéré le frère Dutton de plusieurs des responsabilités qu'il avait exercées auparavant et pendant plusieurs années. Il insiste pour continuer à panser les plaies. Mais comme les années passent, de plus en plus de temps est consacré à la correspondance. C'est incroyable, il a développé un classement de correspondance qui pourrait, imaginez, rivaliser avec n'importe quel officier public ou une célébrité, disons. Son calepin d'adresse contient plus de 4000 noms et les sacs de courrier lui sont livrés souvent, ça pèse 20 kilos. Répondre à toutes ces lettres devient un effort à temps plein, à tel point que le frère Dutton déclare un jour qu'il est 7 ans en retard dans la correspondance. Il a aussi dit qu'il a arrêté de fumer sa pipe parce que cela prend trop de temps pour la remplir et pour l'allumer, et qu'il a besoin de ce temps pour sa correspondance. Demande, en ce temps-là, il fallait des plumes, puis un petit encrier, puis c'était pas comme aujourd'hui. Grâce à lui, on reçoit des cadeaux et des dons pour la colonie, même s'il a écrit clairement dans ses lettres là, que ses lettres ne doivent pas être prises comme des requêtes pour de tels dons. Des hommages parviennent à Joseph Dutton de différentes façons. L'un des plus grands hommages lui est offert en 1908. Comme Joseph Dutton a jadis travaillé pour la marine américaine, voilà qu'un jour une flotte de 16 bateaux, appelée The Great White Fleet, fait le tour du monde. Cette flotte de 16 bateaux reçoit du président des États-Unis lui-même, Theodore Roosevelt, le 16 juillet 1908, l'ordre suivant, écoutez bien, déviez votre course, passez devant l'île Molokai en parade et montrez le pouvoir naval du frère Dutton, hissez le drapeau et ensuite continuez vers le Japon. Alors Joseph Dutton écrit à ce sujet, « Quand les garçons sont venus me dire, en courant, que la flotte américaine venait, cela les a fait rire de me voir courir allègrement vers la plage. Je leur ai dit que j'étais comme un vieux cheval de course. Bien que j'ai demandé à la flotte de venir près de nous, je m'attendais difficilement à la voir parce que le côté de Kalawao, de notre petite péninsule, est le plus éloigné de notre terrain et loin de la route des paquebots de San Francisco. Mais de toute façon, j'avais un mât temporaire sur notre plage et comme la flotte était en vue bien loin, j'ai hissé le drapeau américain. Et je l'ai tenu là. Et la flotte a vu le drapeau et les 16 gros bateaux se sont alignés devant nous. Et ils ont fait leurs évolutions pour toute la colonie. Les enfants étaient heureux. Durant toute sa vie, Dutton est demeuré d'ailleurs très attaché à son pays, les États-Unis. L'une de ses routines quotidiennes était de hisser le drapeau le matin et de la descendre la nuit tombante. Il a fait cela même avant qu'Hawaï soit annexée aux États-Unis en 1898. Puis, finalement, survient la Première Guerre mondiale en 1914. Joseph Dutton essaie d'ouvrir l'esprit des patients, des lépreux, au fait qu'il existait un monde en dehors de la colonie. Et il trouve des possibilités dans lesquelles les hommes pourraient contribuer à ce monde extérieur. Joseph Dutton encouragerait les résidents de la léproserie à contribuer à des causes humanitaires dans le monde extérieur. Curieux. Et ainsi, les lépreux ont aidé des organisations telles que la Croix-Rouge. Ils ont aidé à soulager des Japonais. Ils ont envoyé de l'aide au Proche-Orient et pour les enfants affamés d'Europe. Les lépreux ont acheté pour 3 000 $ de bons d'épargne de guerre, puis ils ont souscrit près de 6 000 $ pour la Croix-Rouge. Ce sont des sommes énormes à l'époque. De généreux dons de Kalopapa, Molokai, arrive au quartier généraux de la Croix-Rouge à Washington, D.C. Les victimes de la maladie de Hansen, les lépreux en d'autres termes, donnent tout ce qu'ils peuvent, suivant cela l'exemple de leur guide, Joseph Dutton. Oui, Joseph Dutton demeure ferme dans sa résolution de ne jamais accepter de salaire ou de paye pour ses services à la léproserie. Et depuis, il refuse d'accepter sa pension de la guerre civile, parce qu'il a combattu, comme je vous ai dit, un peu dans la guerre civile. Il a refusé jusqu'en 1911. Mais là, on lui suggère de l'offrir pour une bonne cause, sa pension. Alors, il pense que c'est une bonne idée. Et ainsi, en 1929, il a 128 chèques mensuels de $50 qui ont été envoyés, finalement aux sœurs du bon pasteur de Memphis pour leur école industrielle Sainte-Catherine. Il en a fait don de cette fortune. En 1926, Joseph Dutton entend dire qu'une école élémentaire doit être construite dans le Wisconsin, là où il a vécu, à partir de l'âge de 4 ans, à 13 milles de la maison familiale de son enfance, en souvenir de lui. Ce serait l'école Joseph Dutton. Alors il écrit « Pour dire que je suis reconnaissant pour l'honneur que vous me faites, cela ne veut pas dire que je le mérite. Y a-t-il une personne qui en soit digne? N'est-ce pas la grâce de Dieu qui fait tout le mérite? N'est-ce pas la grâce de Dieu qui fait tout le mérite? » C'était un désir du frère Dutton de ne jamais quitter Molokai, mais en juin 1930, à l'âge de 87 ans, un mal de l'œil, là, puis un pauvre état de santé aussi, l'oblige à être hospitalisé à Honolulu. Il n'a jamais quitté la léproserie depuis son arrivée en 1886. Mais là, nous sommes rendus en 1930. Excepté pour un voyage à Kalopapa, de l'autre côté de la péninsule, c'est pas loin, au printemps 1930, pour une opération à l'œil. Il n'a pas quitté le terrain du Baldwin Home, des jeunes garçons, et de l'église Sainte-Philomène, sa paroisse, pendant tout ce temps-là. Il est opposé à l'idée d'aller à Honolulu. Et cela a pris plusieurs personnes pour le convaincre, incluant le frère Ludger, qui a dit plus tard, « Nous avons fait passer un rayon X et nous avons trouvé qu'il souffrait de la vésicule et de pierre au rein. Et les médecins ont décidé de le prendre à l'hôpital à Honolulu. Mais ils ont eu des tas de problèmes pour obtenir son consentement. D'abord, il refuse absolument, mais je lui ai fait comprendre la nécessité de ce voyage. 44 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait vu Honolulu la dernière fois. Aussi, le 4 juillet, frère Joseph et moi, nous avons pris le bateau à vapeur et le matin à 10h30, nous quittions Kalopapa et nous arrivions à Honolulu le jour suivant. Ils ont été reçus au bateau par une bande de journalistes, tous anxieux de demander à Joseph Dutton les questions concernant ses 44 ans à Kalawao. Mais il marche précipitamment vers l'hôpital St. Francis et chemin faisant, il commente, il dit « Tout passe à toute vitesse, vous savez. Aujourd'hui, c'est une belle journée et je sens le soleil. Je ne regrette rien, mais j'oublie plusieurs choses. Je suis aveugle, je suis sourd, et je pense que je suis presque sans connaissance, mais je n'ai pas de regrets. » Juste avant de quitter la léproserie, frère Dutton a senti qu'il devait répondre à la lettre d'un ami qui lui disait que son sacrifice avait été trop grand. Et frère Dutton lui écrit seulement ces quelques mots. Écoutez bien. Vous parlez de la gloire du grand âge. Oui, mais je suis près de la sainte paix de la mort. Et je crois que je n'ai jamais fait un réel sacrifice en venant ici. Non, j'ai été béni pour cela. Et comme sa santé décline rapidement, ben, Joseph Dutton réalise qu'il ne reverra jamais plus Molokai. En janvier 1931, il dit, je crois que je suis arrivé à la fin du chemin. Oui, mon travail est fini. Et j'espère que Dieu approuve. Et il meurt le 26 mars 1931. Peu de temps avant son anniversaire, il aurait eu 88 ans. Il n'a jamais chancelé dans sa résolution, qu'il a pris presque un demi-siècle plus tôt. Et quelqu'un qui a écrit à son sujet a dit, « Personne qui a déjà lu l'une des lettres du frère Joseph peut même questionner le fait qu'il a gagné le bonheur, que des millions d'autres ont poursuivi fiévreusement en vain. » Oui, il a trouvé le bonheur. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, dit Jésus. Et le Seigneur est présent de façon très particulière dans les lépreux, les sidéens et tous les gens qui sont vraiment affreusement malades comme ça. Et lui, il s'en est occupé comme ça pendant des années, comme vous avez vu, avec un dévouement sans borne. Ce Joseph Dutton. Trois présidents des États-Unis, en plus de Theodore Roosevelt et Calvin Coolidge, ont proposé comme modèle la vie de Joseph Dutton, qui est une source d'inspiration pour tout le monde, une source vraiment d'inspiration, un modèle à suivre. Warren J. Harding a écrit à Joseph Dutton: vous avez tracé pour nous un modèle que je souhaiterais avoir atteint. C'est dans le service désintéressé de tous nos frères que nous tous devons finalement trouver les satisfactions et les consolations de cette vie. Et Herbert Hoover a écrit: je suis profondément intéressé par l'histoire romantique de Joseph Dutton, dont la vie comme pionnier, soldat et grand humaniste est si caractéristique de notre peuple dans sa diversité, son pittoresque et son idéalisme. Il se fait une grande idée du peuple américain, ce Herbert Hoover. Il a bien raison. Faut être fier. Son service auprès des lépreux, dit Herbert Hoover, son service auprès des lépreux de Molokai a couronné sa vie d'une sainte gloire. C'est un privilège de rendre hommage à sa mémoire. Franklin D. Roosevelt, au moment où il était gouverneur de New York, écrit: il est très difficile d'exprimer un hommage convenable à Joseph Dutton. L'homme de foi perçoit chez le frère Dutton un collaborateur providentiel au père Damien avec lequel il a travaillé. Et ces deux vies, liées ensemble dans un ministère héroïque pour les lépreux de Molokai, ces hommes infortunés, se dressent comme des éclaireurs, des guides pour un monde meilleur, un encouragement dans la détresse et une inspiration pour se sacrifier pour leurs compagnons. Et comme la légende du père Damien a continué à se répandre et à prospérer après sa mort, bien, c'est la même chose pour la mémoire de Joseph Dutton, le frère Dutton, comme on l'appelle souvent. Son histoire est racontée jusqu'à maintenant aux visiteurs puis aux touristes de la léproserie de Kalopapa, et elle est racontée aux enfants qui fréquentent l'école élémentaire Saint-Jude de dans l'État du Wisconsin. L'église du Saint-Sacrement à Stowe, pas loin de Montréal, ou de Sherbrooke, encore plus près de Sherbrooke, hein, dans le Vermont, avec ses impressionnantes murales qui illustrent le frère Dutton et le père Damien, ça continue de présenter leur histoire aux passants, puis aux gens qui vont faire du ski là-bas, puis aux membres de la paroisse. En vérité, à partir des membres de cette église, a émané un autre hommage au frère Dutton par les membres de la famille Trapp qui résidaient à Stowe. Hein, la famille Trapp, vous vous souvenez de ça, ils chantaient d'un bout à l'autre du monde. Une d'Autriche. Et ensemble, avec le père McDonough, ils ont voyagé jusqu'à la léproserie de Kalopapa en 52. Ils ont donné un concert dont tous se rappellent. Et leur première visite, après leur arrivée à la léproserie, a été au tombeau du frère Dutton à Kalawao, du côté est de la péninsule, où est enseveli aussi le père Damien. Joseph Dutton a touché la vie de beaucoup de gens quand il était vivant, puis il continue de la toucher toujours. Oui, nous sommes touchés aujourd'hui. Les saints survivent à leur mort. Sera-t-il canonisé? Je l'ignore. Mais l'histoire de sa vie porte un message. Durant ses 45 années à la léproserie, plusieurs personnes lui ont écrit, lui demandaient s'il pouvait venir travailler avec lui à Molokai, pour que cela... pour qu'on puisse l'aider, parce que ça leur semblait, pour eux, l'endroit idéal, hein, pour s'améliorer d'abord, puis pour trouver le travail de leur vie, quoi. Faire quelque chose d'utile. Savez-vous ce qu'il leur répondait? Il disait: je désire vous mettre en garde contre une appréciation trop élevée du travail ici. Oui, le travail accompli avec une bonne intention pour réaliser la volonté du Dieu Tout-Puissant pour sa gloire est le même à un endroit comme dans un autre. Celui de Molokai peut être partout. Partout. Depuis 1880, le Congrès du gouvernement américain a voté un projet de loi qui a été signé finalement par le président Jimmy Carter, à l'effet que Kalopapa est devenu un parc national et les mêmes falaises et les chutes qui avaient fait de cette péninsule un endroit pour isoler les personnes atteintes de la lèpre continuent d'offrir des paysages et des scènes les plus spectaculaires d'Hawaï. Il y a maintenant moins de 90 patients qui résident dans leur maison familiale, sauf quelques personnes qui demeurent à l'hôpital. Ils sont âgés de 50 à 80 ans parce que l'arrivée de médicaments pour traiter la lèpre a éliminé l'isolation pour les personnes âgées. Les faits qu'il reste aujourd'hui si peu de patients comparativement au temps du père Damien, où le nombre a atteint, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1200, c'est une victoire. Fruit du travail persévérant de tous ceux qui, comme le père Damien puis Joseph Dutton, ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie pour leurs frères, sans oublier aussi, évidemment, les chercheurs, les médecins, les savants, grâce aux médicaments, qui ont pu combattre la bacille de la lèpre, qui porte le nom, d'ailleurs, de celui qui en a fait la découverte, le docteur Hansen, originaire de Norvège. Un médecin-chercheur a écrit, « Lorsque l'Église et la société en général reconnaît le patient souffrant de la lèpre comme un frère humain, et que l'amour du Christ est porté pour le réconforter, alors... les vies sont libérées. Toutes les vies sont libérées. Ceux qui la portent et ceux qui sont soignés. Les pouvoirs de la prévention et de la guérison grâce à la connaissance médicale ont l'opportunité de restaurer les patients puis d'éradiquer ce fléau qui date de plusieurs siècles. Et par leur amour, le père Damien et Joseph Dutton, dans leurs actes quotidiens d'oubli d'eux-mêmes et de persévérance, ont été les précurseurs des apôtres d'aujourd'hui. Écoutez bien, à la suite du Christ, ils ont le mérite d'avoir attiré l'attention du monde sur ceux et celles que la société rejetait. Et c'est dans l'humilité que Joseph Dutton a poursuivi l'œuvre commencée par Damien, dans un même esprit de don et sans réserve à la manière de Jésus. Dans son humilité, Joseph Dutton va écrire, « Ces écrivains me font passer pour un héros. Je ne me sens pas du tout comme ça. Je ne prétends pas avoir fait de grandes choses. » Je sais simplement, d'une façon modeste, d'aider mon voisin et ma pauvre âme. Espérons que les victimes du VIH d'aujourd'hui, qui veulent s'en sortir, qui en prennent les moyens, puissent-ils devenir les témoins de l'espérance qui est annoncée par le prophète Isaïe. Jadis, vous avez été délaissés, haïs, abandonnés, mais maintenant, je ferai de vous la fierté de tous les temps. Une joie de génération en génération. Le Seigneur sera votre lumière pour toujours. Et les jours de votre affliction seront finis. Nous sommes tous un peu lépreux. Et nous avons tous besoin du Seigneur, qui sera notre lumière, pour que se termine notre affliction.